Kanyangi.
Merci de nous rester fidèles, madame, monsieur. Bonsoir, bienvenue à l'écoute de cette édition dont voici les grands titres.
Notre région actuellement, avec des tensions, des confrontations armées au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo.
L'évêque de Bubanza évoquant des tensions dans la région des Grands Lacs ce lundi. Des Burundais, des Rwandais et des Congolais sont à Bujumbura au nom de la restauration des relations et la promotion de la paix. Dans cette édition, on revient sur l'assainissement lié à l'hygiène dans certaines zones de la commune de Mukaza. Début ce lundi à Luanda, en Angola, du 7e sommet Union africaine-Union européenne, des crises sur les deux continents vont être abordées jusque ce mardi. Many rivers to cross, but I can't seem to find my way over. Le chanteur jamaïcain Jimmy Cliff est décédé ce lundi à l'âge de 81 ans. Les détails, c'est dans cette édition mise en onde par Alphonse Kugiman. Isanganiro, la radio de l'avenir. Bienvenue encore une fois. Échanger sur des actions à mener pour consolider la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs, telle est la mission de l'atelier de deux jours à Bujumbura depuis ce lundi, qui réunit des jeunes et des femmes artisans de paix et de cohésion sociale provenant du Burundi, du Rwanda et de la République démocratique du Congo. Monseigneur Emmanuel Nakarutimana, évêque de Bubanza, explique que cet atelier a été organisé par la Commission épiscopale Justice et Paix dans le but de restaurer les relations et promouvoir la paix dans cette région. Je vous prie de l'écouter.
La mission, c'est que vu le contexte de notre région actuellement, avec des tensions, des confrontations armées au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo, cela impliquant les pays voisins, le Rwanda, le Burundi, avec mouvement des groupes armés, des forces armées, mais aussi les effets que ça a sur les populations, les déplacements, les désastres humanitaires et beaucoup d'autres choses. Il était important qu'on réunisse quelques représentants des femmes, parce que que les femmes subissent de façon forte et de façon très intime les conséquences de ces affrontements, de ces déplacements de population, les effets de la guerre, mais aussi des représentants des jeunes, les jeunes étant nombreux dans nos pays, faisant un effectif très important de la population. Et il était important de réunir des représentants pour réfléchir ensemble, pour voir quel type de réseau on peut créer, on peut monter pour prendre en compte l'animation des populations autour des valeurs de paix, de justice, de réconciliation et aussi voir les actions concrètes qui pourraient être menées et le plaidoyer qu'il faudrait faire auprès de ceux qui ont des responsabilités, soit au niveau national, soit au niveau régional et même au niveau international, parce qu'un plaidoyer est nécessaire et l'Église catholique a la taille qu'il faudrait pour faire ce genre de plaidoyer.
Monseigneur Emmanuel Nakarutimana indique que le rôle de l'Église catholique n'est autre que la réconciliation et que si l'Église le joue pleinement, la paix va régner dans cette région. Encore une fois, Monseigneur Emmanuel Nakarutimana.
L'Église a un rôle très important et il devrait le jouer de façon plénière. Parce que d'abord, dans nos pays, l'Église catholique représente un pourcentage important de la population et dans les trois pays. Et puis, de par sa nature même, son identité, c'est une institution qui travaille à la restauration de la base des valeurs, le renforcement des valeurs dans une société. Or, ce qui s'est cassé le plus dans nos pays, c'est les valeurs qu'il faudrait restaurer, mais aussi l'Église doit faire la promotion des bonnes relations, c'est dans sa mission, les bonnes relations entre les gens, les bonnes relations dans les communautés, les bonnes relations entre pays, et aussi l'Église, dans sa mission, tient en compte les blessures du cœur, les traumatismes, la gestion des mémoires, souvent des mémoires blessées à travers l'histoire, et il est clair que si l'Église joue pleinement son rôle, elle peut apporter une contribution importante dans la capacité de résilience de nos populations et aussi dans l'édification d'un monde de paix, d'une communauté de paix. Et cela est urgent aujourd'hui, vu tout ce qui s'est passé ces dernières années, ces dernières décennies.
Page santé de cette édition, certains habitants de la ville de Bujumbura affirment que ces derniers temps, des jeunes ne font plus attention à la contamination au VIH-Sida. Ils indiquent qu'à cause de l'oisiveté dans laquelle ils vivent, ils sont souvent attirés par ce qui peut attirer de l'argent. Ils demandent qu'on puisse leur accorder du travail afin d'éviter ces tentations. Sheila Irambona.
Comme le témoignent ces habitants de la capitale, beaucoup de jeunes n'ont pas de travail ces derniers temps. Ils sont souvent confrontés à pas mal de défis. Ils indiquent que pour vaincre l'oisiveté, certains s'adonnent au vagabondage sexuel, tandis que d'autres cherchent comment gagner de l'argent par tous les moyens. Ces habitants regrettent que dans tous ces cas, peu d'entre eux se rappellent de se protéger.
Beaucoup parmi ces jeunes paient un loyer. Ils n'ont pas de travail. Et s'ils vont boire dans des bistrots, ils rencontrent des vieillards ou d'autres jeunes qui ont le sida et ils sont contaminés ainsi.
Notre génération n'a pas peur du sida. Beaucoup ont perdu diabète ou autre maladie. Ces jeunes ne pensent même pas à se protéger. Les préservatifs ne sont plus vendus dans les boutiques. Ils ne considèrent pas le sida car avec le sida, on ne met pas sur le cou. Ils peuvent vieillir avec.
Selon toujours eux, ce serait bien que ces jeunes aient de quoi s'occuper pour éviter ces tentations.
Qu'on leur octroie du travail, car beaucoup sont des chômeurs.
Souvent, ces jeunes font le vagabondage sexuel parce qu'ils n'ont pas de quoi faire. Je pense que la situation serait mieux s'ils arrivent à avoir de quoi faire.
Ceci est dit au moment où le programme national de lutte contre le sida révèle qu'en 2025, plus de 50% de nouvelles contaminations concernent les jeunes.
Captez Isanganilo, écoutez la différence.
Page gouvernance de cette édition, l'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités par SEM estime que les exonérations accordées jusqu'ici causent un préjudice à la collecte des recettes publiques. Faustin Dekoumane, directeur national de cette organisation, réagit après que le ministre des Finances ait annoncé que les prévisions des exonérations fixées à 125 milliards de francs burundais ont été dépassées, allant jusqu'à 225 milliards de francs burundais. Suivez.
C'est un montant de dépassement colossal qui cause un tort, un préjudice au niveau de la collecte des recettes publiques alors que le gouvernement en a tant besoin. C'est une exagération constatée. Donc cela a été dénoncé depuis longtemps parce qu'un montant par exemple de 225 milliards à chaque exercice budgétaire, et ça veut dire sur 5 ans, c'est un manque à gagner de plus de 1000 milliards de dollars. C'est un montant énorme pour un petit pays comme le Burundi et qui n'a pas assez d'assiettes fiscales pour collecter les recettes fiscales. C'est tout même que le taux de pression fiscale est encore en deçà de la moyenne exigée selon les facteurs de convergence de l'East African Community. Si on analyse en profondeur, on constate que selon la loi, l'octroi des exonérations se réfère sur 5 éléments. Il y a d'abord la Convention de Vienne qui octroie des exonérations surtout aux agents diplomatiques travaillant dans tel ou tel autre pays. Mais là où les tricheries s'impose, s'institue, c'est au niveau des exonérations octroyées aux structures publiques ou aux hauts cadres de l'État et aussi aux investisseurs. Même actuellement, on constate qu'il n'y a pas de mécanisme de vérification sur l'aboutissement final de ces exonérations. Les entreprises qui se targuent d'avoir octroyé de l'emploi ou d'avoir fait des activités lucratives, il faut une vérification ministérielle. Et aussi au niveau du cadre légal, il est à même de constater le pouvoir discrétionnaire de certaines autorités, en l'occurrence le ministre des Finances, qui a l'attitude d'octroyer les exonérations selon ses analyses personnelles. Il y a risque de faire des dérapages. Il faut aussi réguler son pouvoir par une loi qui doit être respectée par tout le monde.
Le directeur national de la PARSEM propose la suspension provisoire de ces exonérations. Parlons hygiène et assainissement. Certains habitants des quartiers Nyakabiga de la commune Mukaza en province Bujumbura se plaignent que des ordures ne sont pas collectées à temps. Ceux qui se sont entretenus avec la radio et la télévision Isanganiro ce lundi affirment qu'ils viennent de passer 2 mois sans que les déchets ménagers soient collectés. Ils demandent que la collecte des ordures se fasse régulièrement et que les employés des associations ramassant ces déchets ménagers soient sensibilisés sur le respect des biens et des habitants. Reportage signé Alexis Ndaiseng.
La problématique de la collecte des déchets ménagers préoccupe les habitants des quartiers de Nyakabiga et Rumori. À la 10e avenue à Nyakabiga, où nous sommes passés, les habitants affirment que les ordures ont été ramassées la semaine passée, mais de manière tardive.
Ici, c'est à Nyakabiga à 10e avenue. Nous sommes en train de constater que maintenant, ça s'améliore. Ils ramassent les ordures parce que l'association qui s'en occupait avait été supprimée. Elle est restée des mois sans venir ramasser les déchets. Mais maintenant, et moi, quelques jours, ils viennent pour collecter les ordures.
De l'autre côté, au 4e et 5e avenue du quartier Rumuli, on y trouve des sacs d'ordures qui, selon les résidents, n'ont pas été collectés depuis 2 mois par les sociétés chargées du ramassage.
Nous avons passé 2 mois sans qu'on vienne ramasser nos ordures. Tout était rempli. Nous ne savions plus les mettre. Pour ma part, je ne voyais même plus ces voitures chargées de ramasser les ordures passer par ici.
Entre-temps, les habitants dénoncent également des actes de vol commis par certains employés de ces sociétés de collecte, affirmant que ceux-ci profiteraient parfois de leur passage pour dérober des objets dans les foyers en les mélangeant au sac d'ordures.
Ils sont venus il y a 2 mois et sont entrés dans le ménage. Il y avait des vêtements étendus où ils ont emporté et quelqu'un a même dit qu'un de ces vêtements contenant de l'argent avait été pris.
Nous sommes en train d'observer qu'il y a des problèmes parmi les employés de ces sociétés de collecte. Ce sont des personnes qui semblent manquer d'éducation. Ils insultent les gens et lorsque vous avez quelque chose étendu pour sécher, par exemple des vêtements, des charbons ou même des chaussures, ils viennent parfois et l'emportent.
Nous avons tenté de joindre le responsable du quartier Rumuri, mais en vain. Néanmoins, les habitants demandent que les ordures soient ramassées à temps et appellent les sociétés de collecte à mieux former leurs employés afin qu'ils respectent les biens des citoyens lorsqu'ils retirent les déchets dans les ménages, afin qu'ils les chargent dans les véhicules.
Alexis Ndeisenga, les habitants de la colline Ndava Usongo de la zone Mudugu en commune Mhanda disent être contents d'avoir bénéficié de l'eau potable souterraine. C'est au moment où il y avait une carence d'eau potable, de façon que les habitants utilisaient de l'eau sale des canaux d'irrigation et que le choléra a dernièrement emporté la vie de 3 personnes. Les autorités administratives font savoir que même d'autres collines vont bientôt en bénéficier. Une information que nous devons à notre correspondante Spes Caritas Cabagnana.
Nul n'est censé ignorer la loi.
Nul n'est censé ignorer la loi.
Nul n'est censé ignorer la loi.
L'établissement et l'exploitation des centrales, des postes et des lignes électriques ainsi que l'exploitation des moyens de télécommunication sont quelques-unes des activités connexes autorisées aux titulaires d'endroits miniers ou carrières selon l'article 184 du Code minier du 4 août 2023. Stella Daishimi.
Comme le prévoit cet article, sans préjudice de la législation en vigueur, il existe des activités connexes autorisées aux titulaires d'endroits miniers ou carrières, dont l'établissement et l'exploitation des centrales, des postes et des lignes électriques, l'établissement et l'exploitation de moyens de télécommunication et de télétransmission, l'utilisation des produits explosifs, la construction d'ouvrages de secours, y compris des puits et les galeries destinées à faciliter l'aérage, l'écoulement des eaux, la préparation, le lavage, la concentration et le traitement mécanique, chimique ou métallurgique des substances extraites pour des personnes autorisées, le stockage et la mise en dépôt des produits et des déchets, les constructions destinées au logement, à l'hygiène, aux soins, ainsi qu'aux activités sportives et de détente du personnel, ainsi que les cultures vivrières destinées à son ravitaillement. D'autres activités connexes stipulées dans cet article sont l'établissement de toutes les voies de communication et de transport, notamment les routes, les chemins de fer, les canaux, les canalisations, les convoyeurs, les pôles fluviaux ou lacustres, les terrains d'atterrissage, ainsi que l'établissement des bornes repères et des bornes de délimitation.
Je veux l'annoncer en titre, début ce lundi du 7e sommet Union africaine-Union européenne. Près de 80 chefs d'État et de gouvernement étaient attendus ce lundi 24 novembre à Luanda. Et c'est pour deux jours ce sommet conjoint Union africaine-Union européenne avec pour cette 7e édition. La thématique est promouvoir la paix et la prospérité grâce à un multilatéralisme effectif. Au programme des chefs d'État de l'Union africaine et de l'Union européenne en Angola, deux sessions thématiques qui sera d'un côté question de paix, de sécurité, de gouvernance et de multilatéralisme. L'occasion d'évoquer des crises et des conflits sur les deux continents comme l'Ukraine, le Soudan, l'Est de la RDC et encore le Sahel. Et ce septième sommet est la troisième édition à se dérouler sur le continent africain après celui du Caire en 2000 et d'Abidjan en 2017. Dans ce sommet, Union africaine et Union européenne, le Burundi est représenté par le vice-président de la République, Prosper Bazombanza.
Radio Isanganiro, chronique sport.
Le rugby à 15 se joue avec 30 joueurs répartis en deux équipes de 15, contrairement au rugby à 7 qui se dispute avec 7 joueurs par équipe, comme expliqué dans notre précédente chronique sportive. Gérard Ndikuriyo, secrétaire général de la Fédération burundaise de rugby, précise que le rugby à 15 se joue en demi-temps de 40 minutes, tandis que le rugby à 7 se joue en demi-temps de 7 minutes. Jean-Marie Vianney, Gendakoumane.
Dans la récente chronique sportive, Gérard Ndikuriyo, secrétaire général de la Fédération burundaise de rugby, a détaillé les spécificités du rugby A7. Il a expliqué que contrairement au rugby A15 qui se joue avec 30 joueurs repartis en deux équipes, le rugby A7 composé de deux équipes de 7 joueurs chacune, bien que le terrain soit de même dimension, les dynamiques de jeu varient considérablement. La principale distinction réside dans le rythme. Le rugby A7 est rapide et fluide, tandis que le rugby A15 est plus lent à les autres phases de contact nombreuses telles que les mêlées.
Ce que j'ai dit sur le rugby à 7, c'est la même chose. On a dit le rugby à 7 joué par 7 personnes. Mais maintenant, le rugby à 15 est joué par 15 personnes. 15 joueurs regroupés généralement en deux parties. Il y a une partie qu'on appelle mêlée, le pack, donc l'équipe qui joue en poussant ou l'équipe qui est forte. Il y a une autre partie des trois quarts. Les gens qui sont rapides, les gens qui pour jouer, ils courent pour aller marquer. Mais entre les deux, il y a deux personnes qu'on appelle la charnière. C'est le numéro 9 qui appartient à la mêlée. C'est lui qui fait l'introduction de la balle. Il y a aussi le numéro 10 qui reçoit la balle qui vient de numéro 9 pour distribuer la balle aux trois quarts.
Gérard Ndikuriyo précise également que dans le rugby A15, les joueurs sont repartis en trois catégories. Le premier groupe est composé de deux joueurs puissants spécialisés dans les phases de mêlée, tout en précisant que pour marquer trois points, il est nécessaire de poser le ballon au sol de manière similaire à une pénalité au football. De plus, il fait savoir qu'un match de rugby A15 dure demi-temps de 40 minutes avec une pause de 10 à 15 minutes selon les conditions climatiques.
On joue en peu suffisant parce qu'on fait 40 minutes pour le premier mythe et on se repose 10 minutes au minimum, mais on peut même faire 15 minutes. Ça dépend de l'appréciation de l'arbitre selon le climat. Si c'est chaud, on peut même ajouter 5 minutes pour totaliser 15 pour que les joueurs se reposent suffisamment. Et l'autre partie, encore 40 minutes.
Le secrétaire général de la Fédération burundaise de rugby souligne qu'en cas de chaleur excessive, l'arbitre peut accorder des minutes supplémentaires pour une pause d'eau, car contrairement au rugby A7, le rugby A15 ne prévoit pas de temps mort.
Pour le rugby A15, il n'y a pas de temps mort, donc on joue. Si la pause arrive, on fait la pause, après on continue. Mais il y a des cas où l'arbitre peut décider de donner la pause au, c'est généralement à 20 minutes. Donc, au rugby, il y a une opportunité, il y a ce droit de boire l'eau en cours de jeu. Quand on fait un essai, les joueurs chargés de distribuer de l'eau entrent dans le terrain pour amener de l'eau aux joueurs. Mais ça arrive que si les équipes sont fortes, ça arrive que les 20 minutes peuvent s'écouler sans qu'il y ait essai. Dans ce cas, si l'arbitre constate qu'il y a beaucoup de la chaleur, il peut décider à donner cette occasion pour que les joueurs prennent d'or. Cette pause ne va pas durer que 2 minutes. Donc c'est juste prendre d'or et retourner.
Gérard Ndikuriyo rappelle que le rugby A15 trouve ses origines en Angleterre avant de se reprendre au 19e siècle dans d'autres pays anglophones tels que l'Irlande, l'Afrique du Sud, l'Australie et la Nouvelle-Zélande.
Many rivers to fine.
Cette page nécrologique, le monument de la musique jamaïcaine depuis plus d'un demi-siècle, le chanteur Jimmy Cliff est mort ce lundi 24 novembre à l'âge de 81 ans. S'il a fait danser la planète et traverser les générations avec Reggae Night ou Hakuna Matata, il a joué en Afrique un rôle à la fois pionnier et dans la durée pour y faire connaître le genre musical qu'il avait embrassé, soulignant sa dimension sociopolitique. Tout au long de sa carrière, Jimmy Cliff, cet artiste voyageur, a développé des relations aussi solides que profondes avec le continent. Né le 30 juillet 1944 dans la colonie britannique de Jamaïque au sein d'une famille modeste qui comptait déjà 7 enfants, il a été élevé dans un village rural par son père et sa grand-mère, puis envoyé à Kingston, la capitale, alors qu'il n'avait qu'une dizaine d'années. Le jeune garçon, qui ne se contentait pas seulement de chanter à l'église, mais dès qu'il en avait l'occasion, découvrait d'autres styles musicaux à la radio. Parmi ces tubes, il y a cette chanson que nous sommes en train d'écouter, Many Rivers to Cross. Il y a également I'm a Winner, Dear Mother, She is a Woman, I Can See Clearly Now, It's the Beginning of the End et d'autres. Voilà, 18h. À 18h23 minutes dans les studios de la radio Isanganiro, c'est par cette page nécrologique que je mets en point final à cette édition. Merci madame, monsieur de l'avoir suivi. Merci également à Alphonse Kugimana qui assurait la mise en onde. Au revoir.